comme plus naturaliste, la mer, la mort, échappant au côté tragique de l'Édipe et qui transcende.
Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui. Oui, Mélanie Klein, je pense là, il y a un côté qui est très médicalisant, si tu veux. Dans cet aspect scientifique, je trouve qu'il y a beaucoup plus l'aspect guérison, l'aspect transformation, que l'aspect fantaisie subliminale. Effectivement, peut-être tragique, effectivement, de l'Édipe qui est un, enfin, je sais pas que dire, mais enfin, je pense que Freud n'aimerait pas l'aspect tragique, on n'aurait pas aimé. L'aspect tragique, c'est quand justement il n'arrive plus, quand il ne sait plus. Ce qui est tragique, c'est comment réussir à sortir du tragique dans, au-delà du principe du plaisir. Pour sortir du tragique, il faut reconnaître que malgré tout, l'hostilité, l'agressivité sont là beaucoup plus qu'il n'avait cru, et que à ce moment-là, on se retrouve sur une base que moi je verrais comme plus scientifique et moins tragique. Effectivement.
C'est
pas que j'exclus du scientifique, c'est à exclure de l'expérimentateur. C'est pas que, par exemple, la honte est un objet de science, tant pour Freud que pour Flournoy. Mais la honte ne peut pas être exprimée scientifiquement. Alors, à l'époque, pour Flournoy, c'est très clair, la honte ne peut être appréhender scientifiquement que dans le cadre du parallélisme. C'est pas possible autrement. C'est ça. Il dit tant qu'on ne peut pas rester sur le terrain scientifique des sciences naturelles, c'est-à-dire dont le summum était à l'époque la mécanique newtonienne, il n'y avait pas d'idée, par exemple, le saut, les quantas, tout ça, ça débutait. Mais il y a une idée de continuité. Alors, pour pouvoir découvrir ce que c'est que les sentiments affectifs tels que la honte, le plaisir, le dégoût, Freud parle, on ne peut pas les estimer directement.
Les objectifs.
Oui. Bon, alors les couleurs, tu peux encore objectiver les couleurs avec les rayons, etc. Mais c'est très difficile de dire si ton bleu est le même que le mien. C'est pas possible. Alors si un professeur doit essayer d'écrire quel est le degré de honte de 10 personnages qui se sentent tous honteux, pour pas dire simplement ils se sentent honteux, enfin, c'est tout. Alors comment il fait? Il n'a pas d'autre cours que le parallélisme. Parce que sinon, il arrive à des truismes, des
alors à le prendre au pied de la lettre, à le croire sur parole.
Voilà, oui. alors dans ce cas, il n'y a plus de bon, il en haut, c'est fini. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec le parallélisme, c'est qu'il y a ce, tout ce qui est psychique ne peut être appréhendé qu'à travers la physique, la perception, etc. Par l'observateur. Et alors, quand tu arrives à la mort, le psychisme, parallèlement, qu'est-ce qu'il y a dans le physique ? Il y a l'anéantissement de toute la physique newtonienne. C'est-à-dire, la mort se caractérise, il n'y a plus de mouvement. Plus rien ne bouge. C'est ça qui pourrait décrire le mieux physiquement la mort. Mais si plus rien ne bouge, ça n'est que parallèle à l'état de mort psychique. Alors l'état de mort psychique n'est pas décrit, puisque plus rien ne bouge physiquement. Alors rien ne dit que le psychique ne peut pas continuer. Le psychique peut s'envoler, mais tu n'as plus de possibilité physique de l'appréhender. Donc il peut aller peupler les sphères, les astres, les articles.
Ça, c'était une question de précision. Un autre, c'était, si j'ai bien compris, que donc, l'angoisse de castration est aussi un motif d'après ce que vous avez dit dans votre livre. Elle, vous l'avez dit, un outil pour pouvoir psychanalyser.
Mais c'est en effet, c'est plus qu'un outil, parce que c'est aussi quelque chose
qui est prouvé, qui induit,
qui concentre tout le reste. C'est
qui
comme aussi,
dans
aussi
la
une, c'est une finalité finalement de la castration. Il y a au début ou à la fin, pour qui veut la castration, comme cause première. Comme cause première, oui, parce que c'est un postulat, c'est une cause première, c'est l'angoisse de castration. Si c'est un postulat, c'est un axiome, c'est une cause première, c'est pas prouvable. Par contre, toute la théorie ne fait que confirmer ce postulat. S'il y a du refoulement, s'il y a...
Il existe.
Oui, moi c'est comme ça que je le conçois. C'est ce qui différencie l'efficace, je crois.
Le négatif, la castration,
oui, que l'angoisse de castration en soi, c'est un postulat qui n'existe que par ses retombées, ses effets, c'est-à-dire que les effets, c'est pas ses effets, que ce qu'on observe ne peut être expliqué que par un postulat, qui serait l'angoisse de castration. Et qui, par cette hypothèse, qui ne va pas être confirmée par les faits de manière linéaire, comme il y avait l'hypothèse qui devient une loi de nature, mais qui sera toujours re-investie par l'expérience.
C'est interminable.
Oui, c'est dans ce sens que si on fait de l'angoisse de castration quelque chose, disons, de réel, de matérialisé, et que si ce n'est pas quelque chose, que si ce n'est pas une hypothèse théorique, à ce moment-là, effectivement, l'analyse est interminable. Puisque toutes les théories subséquentes vont toujours, et toutes les observations subséquentes pourront toujours être expliquées par la loi de castration.
Par le complexe.
Oui. Donc l'analyse est interminable. Alors, si le complexe d'Édipe est... là-dessus, Nikos. C'est que c'est pour moi, si le complexe d'Édipe est biologique, tant qu'on vit, c'est interminable. On peut éventuellement faire levier sur ses effets, mais il reste là.
Peut-être que c'est souhaitable que ce soit interminable.
Voilà. Alors, on est toute notre vie, on vit sous l'angoisse de castration. Alors ça, je veux bien si on est psychanalyste, mais je ne peux pas extrapoler, comme avec Galilée, on peut extrapoler que la Terre tournait. Extrapolé non seulement que le passé, mais que les trois quarts de l'humanité actuelle aussi trouvent que cette hypothèse est invraisemblable. Il y a un consensus des savants pour dire que la Terre tourne. Il y a un consensus des savants pour dire que le Soleil serait le centre. Ce consensus peut changer. On peut dire que la Terre tourne est anthropomorphique. Le centre, c'est quand même la Terre. recalculer tout en disant nous sommes au centre. Il faut très bien calculer tout comme ça. Mais ce consensus n'existe pas du tout pour l'Édipe. Il existe pour nous, mais on trouvera non seulement dans le passé, mais dans l'actuel, la majorité des gens qui diront non, et des scientifiques qui diront non. Est-ce que
c'est ça qui est de la parole.
Est-ce que je peux encore dire deux questions avant que...
Juste parce que quand même, il y a beaucoup de choses. Voilà. On a le temps. Je m'excuse parce que quand même, Olivier, tu m'as dit de nouveau que je prétends que le complexe de type biologique. Alors, dans ta première version freudienne que Édipe est universel, tu as qualifié toi-même comme une hypothèse scientifique. Et là, je fais mon hypothèse qu'on peut supposer qu'une partie du complexe d'Édipe pourrait être biologique. Autrement, pour moi, le complexe d'Édipe, une fois de tout, est un phénomène anthropologique. Voilà.
L'anthropologie, tu inclus toute la culture, le culturel. Pas le naturel, le culturel.
Culturel,
c'est ça.
Par excellence.
Une autre question, enfin, association à ce que tu as dit, plutôt réaction, c'est par rapport à ce que tu disais, enfin, les formules de toutes les théories. Et tu es venu aussi à Melanie Klein. Alors, moi, je pourrais peut-être te proposer une chose différente, que. Le fait de pouvoir se centrer sur la naissance et la mort, qui est le début et la fin de l'individu, et anticiper, pas la mort, mais anticiper sur un modèle qu'on imagine de la mort, les deuils qu'on ne cesse de faire depuis qu'on vient au monde et qu'on grandit et qu'on renonce à des tas de choses, je pourrais peut-être dire que c'est là. Une chose comme tu as dit, l'anticipation de l'émancipation.
Oui.
Alors moi, je me dis que là, ça colle très bien pour aussi la théorie de Mélanie Klein, parce que c'est l'anticipation de l'émancipation, puisque nous anticipons à travers le modèle de la mort que nous faisons le deuil de toutes les illusions autant que possible. Je crois que c'est assez proche. Et puis, un autre théoricien que j'aimerais aussi, puisque tu as parlé de plusieurs théoriciens, Lacan, avec le langage, qui était au-dessus du sujet et de l'objet, au-delà de la relation intersubjective, je me disais, est-ce que peut-être pour Dion, c'est justement le haut méconnaissable, qu'on atteint toujours, la vérité absolue est toujours inaccessible. Mais avec la conscience que c'est toujours inaccessible, que lui avait. Et pour une autre chose par rapport à cet inaccessible et cet méconnaissable, je me demande si justement ce n'est pas la nécessité de l'homme de créer un Dieu, que ce soit un Dieu chrétien, juif ou tout ça, ou une croyance. Si ce n'est pas ça la transcendance en l'humain.
Ah oui, la transcendance, c'est la croyance, sûrement.
C'est ça.
Sûrement. Mais la croyance, c'était justement ça que tant Freud que moi veulent démystifier. Parce que ils croient en leurs symptômes, les gens qui viennent voir, et ils croient que s'ils ont des symptômes, c'est parce que les autres les ont fait comme ça, etc. Ils sont vraiment convaincus dans un domaine de la croyance.
Et puis une autre dernière chose par rapport à la dernière. Et quand tu dis je ne suis pas la mère dans l'interprétation, dans la construction. Bon, je ne sais pas, dit comme ça, je ne vois pas qu'est-ce que tu ajoutes en disant je ne suis pas ce que vous croyez que je suis, ou en disant vous croyez que je suis, ou je ne suis pas, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas ça. J'ai dit un truc général, j'ai pas dit une interprétation générale, c'est-à-dire que l'interprétation est pour montrer quand même quelque chose qui nous paraît une une illusion, une erreur dont on se démarque, non? C'est ça. Une erreur dans laquelle nous sommes inclus, c'est ça qu'on va faire en interprétant. Alors.
Oui, mais tu soulignes le je ne suis pas. Oui. Voilà. Oui. Vous croyez que je suis la mère? Je ne suis pas la mère que vous croyez.
Oui, c'est ce que tu veux. Je oui, suis parce ça. Que je suis l'analyste.
C'est ça. Je ne suis pas la mère que vous croyez. C'est pas. Oui. Vous croyez que je suis la mère?
Il m'a semblé
que aussi dans l'autre livre, le premier que tu as écrit, c'était là-dessus que tu as
dit.
Juste un petit mot, parce qu'il m'a semblé, quand tu as parlé de mon travail avec les scientifiques, moi j'ai eu l'impression que ce postulat, c'était comme un postulat mathématique, plus qu'une science naturelle. On peut prouver que la Terre tourne, peut-être. Mais on ne peut pas prouver que les deux droits parallèles ne se rejoignent jamais, par exemple. Mmh. Pour ce postulat, et les mathématiques le confirment. Enfin, se base là-dessus, mais on peut aussi dire que les deux parallèles se rejoignent à l'infini, et on sait que les géométries qui partent là. Alors, j'ai un peu l'impression que ça, c'est quelque chose qui ressemble à ce que tu dis du complexe de castration, du complexe de Gibbs. C'est quelque chose pour toi qui ressemble à un postulat mathématique. Pose une vérité, un postulat, et après, tu travailles là-dessus.
Oui, si tu veux, mathématiques, j'aurais pas pensé, mais oui.
C'est une
croyance qui s'est transformée en outil.
Il n'y a pas le concret, tu vois.
Non, il n'y a pas le concret.
Il n'y a pas le concret.
Non. Le concret est voilà. Confirmé par l'expérience.
Voilà, c'est l'expérience.
Je crois que dans toute expérimentation, pour moi, le postulat, c'est que la théorie précède tout.
Donc, c'est la croyance.
Sinon, l'expérience, c'est n'importe quoi. C'est
oui, des mathématiques, on peut déduire la physique, mais au départ, il y a l'abstrait.
Oui, ça, tout à fait. Oui, oui. Oui.
Que les croyances, donc, débouchent sur
un postulat. Au départ,
il y a la
réflexion, la pensée. Donc, mais il n'y a pas seulement le raisonnement, il y a aussi le déraisonnable. Production de la pensée, du cerveau.
C'est ça, que dans la science, on peut
faire des raisonnables.
Je m'articule très bien avec ce que vous dites. Mais je trouve que tu fais de bon marché, mais non, dans ton commentaire, dit du négatif, justement, je ne suis pas la mère, comme on peut faire des odyssées. Je trouve que c'est là une pierre tout à fait angulaire de ton édifice théorique. Car si je ne suis pas la mère, je ne suis pas non plus le père castré. Donc, l'angoisse des castrations n'est que, effectivement, je dirais que cette formule postulat mathématique qui est utile pour travailler. Et que
d'accord.
Tu
vas
retrouver. Ouais. Ouais. Et ça me paraît tout à fait fondamental parce que, d'une part, ça met en pièce, je dirais, une tentation, tu l'as bien dit, constructiviste ou pas constructiviste, qui irait vers les centres de l'histoire. Et ça met en pièce pour moi également, je dirais, un structuralisme à la Lacan, dans lequel il resterait le phallus comme signifiant, mais resterait là en positif et bouchant complètement tous les champs de l'avenir, en définitive. Moi, je trouve que ton travail à propos du négatif est fondamental pour, je dirais, pour désaturer cet avenir, pour le laisser ouvert et libre à un espoir. Parce que sinon il n'y a, ouais. a pas d'espoir. Je ne pourrais pas trouver d'espoir.
Ça serait symétrique.
Oui. J'y retrouverai ce que tu disais, Dany. Bouchons complètement tout le champ.
Oui, c'est bien pour ça que j'aime cette formule d'impermanence. On anticipe quelque chose de l'ordre, d'un espoir, d'une émancipation de ce positif, d'une liberté.
Question? Quand tu dis que l'interprétation, c'est pour découvrir le sens du symptôme, tu dis ensuite, vous donnez un autre sens, je ne sais pas si tu as dit ça. et tu vois l'aspect transformatif. Alors là, on peut être d'accord parce que l'aspect transformatif nous met dans la position que la représentation du symptôme, tu donnes une autre représentation. Autrement, si tu dis on découvre les sens, on fait un décryptage vertical que Freud a tout, au début de sa carrière a essayé avec l'hypnose de Breuer, le catharsis et la réaction, mais ensuite il a dénoncé. Alors, moi je serais plutôt à donner un autre sens ou à l'effet transformateur de la de l'interprétation que à la découverte du sens.
C'est, oui, c'est-à-dire que la découverte du sens implique que ce sens qu'on découvre ne va pas être celui qu'on va conserver. C'est-à-dire que de rendre conscient la conscience, ça ne veut pas dire que les choses sont conscientes. Le problème reste. Moi, c'est ce que je voulais dire là, c'est que l'interprétation et le sens donnent cette idée dialectique, c'est que chaque fois on va découvrir un sens dans un sens de perspective. Le symptôme sert à quelque chose, il a une finalité, et que si on le change, eh bien, on va se retrouver probablement dans la même situation, mais on aura donné une autre finalité au symptôme, et peut-être à ce moment-là, le symptôme se modifiera d'autant. Mais je pense que ce que je veux dire, c'est que l'interprétation ajoute, dans mon sens, une finalité que la construction ne donnait pas. Dans la construction, oui, il y a une finalité, c'est reconstruire l'histoire. C'est comme l'archéologie, on va reconstruire la maison qui a été détruite. Mais je pense que, dans un autre aspect, la maison n'a pas été détruite, mais elle est construite de travers. On va la modifier dans la synchronie. Pas nécessairement qui manque, enfin changer les... Ça c'est la construction qui bouche l'amnésie infantile. Or on n'arrive pas à ça. Ce qu'on arrive, c'est on arrive à un désir de manque. On n'arrive pas à la satisfaction du désir. La satisfaction du désir, c'est du rêve, ça. Puis c'est du rêve dangereux. C'est ce qu'il y a de pire, c'est la folie, la satisfaction.
Quelle des médiation? Approximations pour toujours trouver l'angoisse de castration, la non-satisfaction.
C'est bien pour ça que, à mon avis, que dans une perspective de science dialectique, il faut qu'on ait quelque chose qui transcende cette science. Sinon, on piétine. Il faut que, comme dit Mélo, qu'il y ait un espoir quelconque et que cet espoir ne soit pas bouché. Donc, à ce moment-là, ça vaut la peine de changer, par exemple, l'équilibre entre patient analyste 10 fois, 100 fois, tout en ayant, en retombant toujours sur le même équilibre, mais avec chaque fois une possibilité de se dire que c'est possible de changer, que cet équilibre n'est pas définitif, et qu'on peut espérer quelque chose, peut-être on va dire, après cet exercice de l'analyse.
À ce propos, Freud, dans Technique et dans l'analyse, en parlant de l'amnésie infantile, il dit le but ce n'est pas de la découvrir pour combler un vide, et en ceci, il dit que ce qui contrebalance et qui justifie le refoulement de l'amnésie infantile, c'est le souvenir écran, ce que je trouve tout à fait intéressant. Le souvenir écran, que c'est la transformation justement de souvenir. De la maison. Le souvenir écran.
Qu'est-ce qui est intéressant pour le souvenir écran?
Qui assure le refoulement de la maison infantile.
Mais le souvenir écran, c'est justement. C'est justement en faux. C'est un écran. Ça cache, et puis ça montre quelque chose qui n'est pas, puis ça cache quelque chose derrière l'écran. Et le souvenir à écran, il est intéressant dans la mesure où justement, oui, on peut le modifier Et finalement, l'idée, c'est pas de boucher l'amnésie, mais c'est de montrer que ce souvenir écran bouche abusivement, comble abusivement le désir.
Et chaque fois que notre souvenir écran apparaît, c'est un souvenir écran, et c'est pour ça que ça va. Mais dans quel
moment là, scientifiquement, on trouve une tautologie, souvenir écran égale souvenir écran.
Ça devrait être. Mais c'est ça qui paraît le plus, pour moi, le préférable aussi, de nous mettre en lien constamment pour que la saturation de cette satisfaction d'avoir la satisfaction d'avoir
oui, et scientifiquement, si on parle d'un souvenir à écran, on peut découvrir un souvenir à écran qui sera l'opposé. On va dire A, puis il y aura moins A, puis ce sera la même chose. Ce sera quand même un souvenir à écran qui jouera le même rôle.
Voilà. Qui te donne évidemment beaucoup de choses. Mais j'aurais aimé, tout le monde dit ça, du point de vue technique, de celui qui parle clair, de ne pas boucher par les interprétations, c'est tout ça qui c'est extrêmement intéressant et utile. Mais j'aurais aimé vous faire un peu un raisonnement de sophiste pour la discussion. C'est vous soutenez, c'est votre position analytique, mais je pense aussi philosophique, si vous me le permettez. La transcendance existe. Alors, l'aliment des sophismes pour la discussion, est-ce que la croyance, le besoin de croyance de que la transcendance existe, n'est pas une façon de boucher la propre transcendance, puisque vous vous donnez une réponse.
Je
n'ai
pas
dit
que la transcendance existait. Que la transcendance représente ce qui pourrait, peut-être, ce sur quoi on pourrait déboucher. Mais la transcendance, c'est de nouveau un négatif, puisque ça transcende ce que c'est. La transcendance, c'est rien, finalement. Ce n'est que de l'ordre d'un espoir. Je crois que comme le ish de Freud, il me semble que je ne crois pas que je soutienne qu'il existe. Je pense que c'est un souhait transcendant de quelque chose qui viendrait de l'homme, mais qui manifestement ne saurait exister du vivant de Freud et de sa psychanalyse. Comme l'éternel que Flournoy veut découvrir à travers. C'est l'essence, la transcendance, c'est ce qui fait marcher le moteur. Le ish que Freud espère, il ne le trouvera jamais, puisque ce sera toujours Soll ich werden. Et l'éternel que Flournoy veut chercher chez Helen Smith, il sait bien qu'il ne va pas le trouver, mais ça lui rend son travail scientifique agréable, parce que ça lui donne une raison de chercher quelque chose qu'il ne va pas trouver, alors que le travail scientifique seul tourne en rond, et circulaire. Je ne sais pas si je réponds au sophisme, mais en fait, c'est ça.
Non, je confirme pour le sophisme. Mais c'est vraiment pour le sophisme, mais pour préciser la pensée, parce que je vois bien ce que vous répondez, c'est pas une question. Mais vous voyez bien, c'est pour revenir à la question des négatifs. Je comprends bien que ça vous intéresse, la question de la tautologie, parce que là, c'est une sacrée question. Je me suis intéressé indirectement aussi à la tautologie. Mais vous revenez au positif, hein, pensant que c'est le négatif. Vous dites, pour moi, avait besoin de croire à l'existence d'un éternel qu'il savait, ça c'est le positif, qu'il savait qu'il n'allait pas trouver.
Oui. Ça, c'est positif. C'est pas, c'est en apparence négatif, mais c'est un positif. Parce que, qu'est-ce qu'il sait? Ce qui serait vraiment, c'est l'idée de je ne sais pas si je vais le trouver ou pas. Bon. Vous voyez, du moment où vous affirmez avec certitude qu'on ne va pas le trouver, vous êtes en train de faire une affirmation.
J'affirme qu'il ne va pas le trouver du temps de son vivant. Alors, je dirais plutôt que c'est le négatif du négatif. Alors, à ce moment-là, si on veut continuer la transcendance, alors soyons hegeliens, dans un sens, si vous voulez. Mais je pense qu'en effet, du temps de... Finalement, ça serait l'espoir que la mort soit pas la confirmation définitive du négatif. La transcendance ne soit pas que du négatif, que ne soit pas la matérialisation du négatif.
Et donc, ça me fait penser, pour la discussion, est-ce que vous ne pourriez pas accepter la proposition, je viens de dire, en fait, je ne sais pas si on va le trouver ou pas, comme étant plus ouvert, puisqu'on parle d'ouvert,
oui,
que dire, je suis sûr qu'on ne va pas la trouver.
Ce dont je suis sûr, c'est que, alors, bon, il y a deux choses. On va pas la trouver, si on parle de transcendance, on va pas la trouver de notre vivant. Ce dont je suis sûr, si je parle de la psychanalyse, c'est que ce que je souhaite trouver après la psychanalyse, je ne vais jamais le trouver, parce que je serai toujours dans la situation psychanalytique. Autrement dit, je ne sais pas ce que c'est que l'après psychanalyse. Alors là je suis d'accord que c'est ni de l'ordre du négatif, ni de l'ordre du positif à ce moment-là. C'est de l'ordre du transcendant.
C'est que, à mon sens, il y a deux négatifs qui se situent à deux endroits différents. Un premier négatif qui concerne les concepts, la transcendance ou la castration, peu importe. Et un deuxième négatif que tu introduis, c'est ce que Salia te disait, c'est qui parle. Je ne suis pas.
Oui.
Et je crois que ces doubles négatifs introduisent l'incertitude qui est génératrice de liberté. Et c'est là où je verrai, si tu veux, sortir de l'écueil effectivement que toute formulation, sinon toute formulation est effectivement une affirmation positive. Quand effectivement Lacan parle du phallus, c'est insignifiant, mais c'est effectivement, ça réfère à quelque chose qui est de l'ordre du négatif. Mais cependant, c'est quelque chose qui est du langage et c'est du positif. Et c'est juste ce que tu dis. On entre pourtant, effectivement, dans une sorte de rapport dans lesquels on finit par affirmer les choses en positif. Mais,
oui, mais tu as affirmé la liberté. Moi, j'aurais dit que c'est même pas la liberté, c'est un espoir de liberté.
Mais quant à la transcendance, je ne pense pas qu'elle puisse combler quoi que ce soit par sa définition, par son étymologie. La transcendance transcende le matériel.
Elle transcende le comble.
Exactement.
Le comble, absolument.
Oui. Tout, c'est une conception purement philosophique et antimatérialiste, alors, en ce sens. Bien, après, en tout cas, tu as dit implicitement que tu sais une chose, que tu ne sais rien, comme Socrate, c'est pour ça que...
Absolument.
Bien, je pense que, après ces belles paroles, on peut remercier encore une fois Olivier. Comme je dis, tout au début, il nous a ouvert des horizons tout à fait intéressants. Et nous te remercions vivement, Olivier, de ta présence.
Merci de votre participation.
Le débat, Géosène.